Bonjour, nous sommes ce matin avec Monseigneur Jean-Michel Di Falco Leandri, évêque de Gap et d'Embrun. Personnalité si connue, Monseigneur, que je crois qu'il est pratiquement inutile de vous présenter davantage à nos auditeurs. Je vous remercie de nous faire l'honneur d'accepter de participer à cette émission. Parmi les grandes réalisations de votre épiscopat, et elles sont nombreuses, il s'en trouve une qui nous intéresse plus spécialement aujourd'hui. C'est la manière dont vous avez donné à un pèlerinage, jusque-là resté relativement local peut-être, celui de Notre-Dame-du-Lot, une dimension et une importance nationale et même internationale, ce qui est tout à fait remarquable. Pour commencer, Monseigneur, et pour ceux qui l'ignoriez, pourriez-vous nous parler des faits du Lot qui ont débuté au printemps 1664 et vont se poursuivre pendant 54 ans, ce qui constitue un record?
Oui, en effet, vous savez, une jeune fille du nom de Benoîte Rancurel voit, pendant qu'elle est dans un champ pour garder une chèvre, apparaître une dame dont elle ne connaît pas l'origine, elle ne sait pas de qui il s'agit, jusqu'à ce qu'elles entrent en dialogue, que cette dame se présente comme la Vierge Marie, et là elle va lui communiquer le cœur de son message, parce que bien sûr il y a eu plusieurs messages, mais le cœur de son message, c'est de faire en sorte que ce lieu dans lequel la jeune fille venait prier soit le refuge des pécheurs, c'est-à-dire le lieu où peuvent être accueillis les pécheurs et où ils peuvent bien entendu recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Voilà, résumé en quelques mots, parce que 52 ans, ce serait très long, 54 ans même, très long à résumer.
Alors, ce qui est très, très remarquable dans les apparitions du Lot, c'est que c'est un village complètement perdu dans la montagne, c'est même un hameau plutôt qu'un village, oui. Et c'est là que la Sainte Vierge va choisir de fonder ce sanctuaire. Et comment se fait-il en effet que les foules, et c'était encore plus vrai à l'époque qu'aujourd'hui, soient montées vers cet endroit perdu et quasiment inaccessible?
Ben oui, en effet, mais vous savez, je crois que ça n'est pas propre à Notre-Dame-du-Lot, c'est un peu le cas d'autres lieux de pèlerinage et d'autres sanctuaires, tels que par exemple la Salette, où il est encore beaucoup plus difficile d'accéder à la Salette qu'à Notre-Dame-du-Lot. À la Salette, il n'y a quasiment que le sanctuaire et l'espace des apparitions, et cependant... Très vite, les pèlerins se sont rassemblés, que ce soit à la Salette, qu'il s'agisse de Lourdes, bien sûr, qu'il s'agisse de Notre-Dame-du-Lot. Et c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que les moyens pour se déplacer n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et cependant, il n'empêche qu'à partir du moment où les habitants des villages voisins apprennent ce que vit cette jeune fille et les messages qu'elle transmet, peu à peu, les personnes vont se rassembler et les pèlerins vont se rendre régulièrement au sanctuaire, alors que dans la plupart des cas, on peut supposer qu'ils s'y rendaient à pied et que donc ça représentait quelques heures de marche.
Peut-on dire que ce sont des populations très pieuses et que ça n'a rien de surprenant, ou au contraire, le message de pardon et de miséricorde de Notre-Dame provoque-t-il un mouvement de conversion?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a certainement, au moment des apparitions, les premières apparitions en 1664, donc au XVIIe siècle, il y a évidemment un sentiment religieux sans doute beaucoup plus intense qu'il ne l'est aujourd'hui. Il n'empêche qu'on voit bien dans tous les récits qui sont faits autour du sanctuaire, qu'il y a de véritables démarches de conversion, parce que l'un des charismes de Benoît Trancurel, c'est d'avoir cette capacité, comme l'avait par exemple le curé d'Ars, j'allais dire, employer le mot qui est peut-être pas tout à fait adapté, mais faire accoucher les personnes qu'elle rencontre de ce qui les taraude, de ce qui les torture, c'est-à-dire le mal qui les habite et leur péché. Et donc, on voit bien que parmi ces pèlerins qui se rendent au sanctuaire dès les débuts, il y a un certain nombre d'hommes, de femmes qui entreprennent volontairement ou involontairement d'ailleurs une démarche de conversion, parce que dans certains cas on voit tel ou tel personnage qui vient parce que la rumeur s'est répandue et que la curiosité les incite à se rendre au sanctuaire, et puis la rencontre avec Benoît fait que mais qu'il y a une conversion qui se produit parce qu'elle les place face à leur péché, à leur faute, et que la démarche de conversion eh bien commence là grâce au fait que Benoît leur a permis de se libérer de ce qu'il portait.
Benoît possède en fait une sorte de charisme de lecture des âmes, comme le Padre Pio ou comme le curé d'Ars.
Exactement, tout à fait. C'est ce qui va aider des personnes qui n'arrivent pas à formuler, à exprimer ce qui les consume de l'intérieur. Eh bien, Benoît va les libère et les aide à exprimer ce mal qui les torture.
Ce qui est assez remarquable, c'est que nous avons affaire à une laïque qui est de surcroît, si je ne m'abuse, à peu près analphabète, voire totalement analphabète,
oui,
et qui va jouer au lot un rôle assez considérable sans que les autorités ecclésiastiques et l'évêque n'en prennent apparemment ombrage.
Bien, au début quand même, heureusement d'ailleurs, parce que ça c'est la sagesse de l'Église, ça va pas nécessairement toujours bien se passer. Il va y avoir des interrogatoires extrêmement sévères. On va l'enfermer pendant plus d'une semaine dans une pièce et l'interroger, lui reposer les mêmes questions. Ça, c'est l'archevêque d'Embrun de l'époque, puisque Embrun était le diocèse à part entière, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, l'archevêque va l'interroger tous les jours, lui reposer les mêmes questions tous les jours, et elle sera capable tous les jours de répondre de la même manière, alors que ces interrogatoires-là avaient pour but de voir si elle redisait la même chose ou si elle se recoupait, si s'il y avait des incohérences dans les propos qu'elle tenait, et pas du tout. Il va tirer comme conclusion eh bien que voilà, on ne peut que faire confiance à ce qu'elle dit, puisque elle s'est jamais contredite dans les interrogatoires. Et moi-même, lorsque j'ai été confronté à la reconnaissance officielle, puisque ça n'était pas le cas, à ma grande surprise, quand je me suis rendu à Rome pour voir comment avançait le procès en béatification, on m'a dit, mais il manque une pièce importante dans le dossier, c'est qu'aucun de vos prédécesseurs n'a reconnu officiellement les événements surnaturels qui se sont produits au sanctuaire. Et donc j'ai réuni une équipe qui a fait tout un travail à partir des manuscrits, à partir des témoignages, pour voir si je pouvais ou pas reconnaître officiellement eh bien, ce que Benoît Trancurel raconte. Et là, je me suis trouvé devant une situation qui était particulièrement difficile, puisque moi-même, je n'ai pas vécu ces événements. Donc, comment pouvais-je reconnaître des événements que je n'avais pas moi-même vécu? En fait, les conclusions de cette commission m'ont amené à dire, mais à partir de tout le travail de la commission et tous les témoignages, je peux dire que lorsque Benoît Trancurel dit ce qu'elle dit, je pense qu'elle dit la vérité. Et à partir de ce moment-là, je peux officiellement reconnaître que les événements qu'elle relate sont authentiques, puisque je pense que Benoît dit la vérité.
Mais comment se fait-il, Monseigneur, comme vous venez d'en faire la remarque à l'instant, que justement l'archevêque d'Embrun de l'époque n'est pas reconnu les événements? Bon, je sais que ça n'a rien d'une démarche obligatoire, mais il y avait peut-être une vacance du siège, je ne sais plus, mais enfin, c'est un très long
oubli. Je ne sais pas, ça c'est difficile, parce qu'il n'y a pas que l'archevêque d'Embrun de l'époque, on peut dire que tous mes prédécesseurs auraient pu le faire, mais en fait, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils étaient, je suppose, dans le même état d'esprit que moi-même, c'est que je pensais que ça avait été fait. D'autant plus qu'il y a eu, je n'ai plus en tête la date, mais il y avait eu le couronnement de la Vierge au sanctuaire. Donc, on peut supposer que la plupart des évêques ont pensé que la reconnaissance officielle avait eu lieu. Or, ce n'était pas le cas.
Autrement dit, si vous n'aviez pas fait les démarches pour la cause de béatification de Benoît, les choses en seraient restées là.
Eh bien voilà, on aurait peut-être qu'un de mes successeurs aurait fait ce que j'ai fait.
C'est votre décret du 4 mai 2008 donc, qui a reconnu la réalité des apparitions du lot. Et ce qui, Est-ce que vous ne pensez pas que Benoît a subi un certain nombre de persécutions, mais c'était lié, me semble-t-il en tout cas, à la présence d'un certain nombre de jansénistes militants et assez influents dans le diocèse. Comment se fait-il, c'est quelque chose qui interpelle toujours un peu, que le jansénisme ait manifesté une telle hostilité envers la Vierge Marie, tout ce qui y touchait?
Écoutez, là, je ne serais pas capable de vous dire les raisons pour lesquelles elle a été persécutée de cette manière-là. Les persécutions ont été telles qu'elle a dû quitter à un moment donné le sanctuaire, se réfugier à Marseille, dans une famille qui l'a accueillie. Mais en même temps, ceux qui connaissent très très bien l'histoire du sanctuaire, encore mieux que je ne la connais, disent que il y a toujours eu, tout au long de la vie du sanctuaire, tout au long de la vie de Benoît d'une part, mais aussi tout au long de la vie du sanctuaire, comme un esprit mauvais qui venait parfois créer une ambiance négative, un peu comme si, eh bien, pour ce, que le si le démon avait trouvé aussi sa place pour créer des difficultés, des tensions, et c'est d'ailleurs ce que Benoît raconte aussi dans le récit qu'elle fait des événements de sa vie. Et qui explique aussi le fait qu'à un moment donné, elle a dû quitter le sanctuaire tant l'ambiance autour d'elle était hostile, de la part d'ailleurs même de prêtres qui étaient au sanctuaire.
Et ce genre de présence diabolique est relativement courante dans les apparitions, sous une forme moins violente malgré tout. On la retrouve à la Salette, on la retrouve à Lourdes.
Absolument.
C'est une sorte de trait récurrent des apparitions, j'allais presque dire d'authenticité. On a parlé d'une pédagogie de Notre-Dame vis-à-vis de Benoît. C'est probablement la longueur des apparitions qui permet cela. C'est beaucoup plus long que les 18 apparitions de Lourdes. C'est absolument remarquable. Est-ce que Notre-Dame, effectivement, se montre pédagogue dans les apparitions du Lot?
Ben oui, on peut dire effectivement ça. On peut dire qu'elle se montre pédagogue dans la mesure où... on pourrait parler, le mot n'est peut-être pas approprié, mais... on voit que Marie apprivoise d'une certaine manière Benoît, qui ne sait pas très bien à qui elle a affaire, cette belle dame dont elle parle, mais elle ne sait pas qui est-ce, jusqu'à ce que que la Vierge Marie révèle qui elle est, mais on voit bien qu'il y a une sorte de... Le temps a de l'importance avant qu'elle se révèle, mais aussi tout au long des différentes apparitions auxquelles Benoît a été confronté tout au long de sa vie. Mais on voit que la pédagogie consiste à apprivoiser. Je pense que c'est d'ailleurs une leçon que nous, chrétiens, nous devrions tirer, qu'il s'agisse de la Vierge Marie, qu'il s'agisse du Christ, c'est de quelle manière, petit à petit, on révèle cette dimension de la foi en fonction de la capacité de l'interlocuteur, en fonction de sa capacité à l'accueillir, à l'entendre. Je peux prendre un exemple un peu brutal, mais on ne donne pas un steak frites à un bébé. On lui donne d'abord du lait, puis ensuite des aliments quasiment mâchés, et ce n'est qu'au fur et à mesure, avec le temps, eh bien qu'on va pouvoir lui offrir un steak frites. Eh bien, je dirais de façon donc un peu brutale, c'est un peu la même chose à propos de la foi, c'est-à-dire que il y a une pédagogie, une progression, et qu'on ne peut communiquer que progressivement tous les éléments de la foi, et pas, j'allais dire, balancer avec brutalité nos convictions, notre foi, à des personnes qui ne sont pas encore préparées à l'accueillir. C'est pour ça que j'avoue, par exemple, que je suis parfois un peu gêné quand je vois la manière dont tel ou tel groupe pense qu'on peut aller dans la rue et crier sa foi et à la balancer comme ça, à la volée, à des personnes qui ne sont pas prêtes à l'accueillir, ce qui fait que, bien souvent, malheureusement, bien le résultat va à l'encontre de ce qu'on a cherché.
Il y a de nombreux miracles au lot, Monseigneur, autour de Benoît elle-même. Il y a des apparitions angéliques. On a parlé d'une apparition de Saint Maurice qui aurait précédé la Sainte Vierge. Il y a le miracle qu'on appelle celui des roses. Et puis, il y a quelque chose qui, nous autres Mayennais, nous intéresse peut-être plus particulièrement. Ce sont les visions que Benoît a du Christ crucifié et d'une croix rouge sanglante qui pour nous va évoquer immanquablement le crucifix sanglant qui apparaît entre les mains de Notre-Dame de Paume.
Oui.
Quel est le sens de ces visions du Christ crucifié, Monseigneur ?
Je crois que c'est une manière de rappeler à ceux qui entendent ce témoignage de Benoît que le Christ a donné sa vie et son sang pour nous, et que le don de sa vie nous invite à faire de même pour nos frères. Vous savez, moi je pense souvent, lorsque au cours de la célébration eucharistique, après la consécration du pain et du vin, on dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». Eh bien, certains pensent que c'est une invitation à célébrer l'Eucharistie, et certes, c'est sans doute ça, mais pour moi, ça veut dire plutôt « vous ferez ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire « vous vous donnerez comme moi je me suis donné pour vous, vous êtes invité à vous donner pour les autres ».
C'est une très belle explication, Monseigneur.
Voilà, et je pense que trop souvent, on s'arrête au premier degré de cette phrase, faites ce que j'ai fait le jeudi saint, mais c'est aussi, donnez-vous comme moi je me suis donné.
Il y a un phénomène au lot, Monseigneur, qui est étonnant. Alors, je ne sais pas s'il continue, c'est ce qu'on a appelé les bonnes odeurs du lot. Il paraît que vous-même en avez été témoin, d'ailleurs.
Oui, en effet. Vous savez, c'est un peu le Seigneur nous rattrape souvent par les cheveux. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai jamais été particulièrement friand de tout ce qui concerne les apparitions. Et je le dis d'autant plus librement que l'Église, dans sa grande sagesse,
ne fait pas une obligation d'y croire.
Exactement, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un qui dirait « je ne crois pas aux apparitions » que l'on peut mettre sa foi en doute. En revanche, quelqu'un qui dirait « je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, je ne crois pas à la résurrection », bon, ben, il a tout à fait le droit de le dire, mais on peut dire « mais alors quelle est votre foi si qui la fonde, ben, vous n'y croyez pas ». Donc je n'ai jamais été particulièrement sensible aux apparitions, et voilà que je suis nommé évêque d'un diocèse où, non seulement il y a eu des apparitions, mais en plus que je suis placé devant le fait de devoir les reconnaître. Ça, c'était la première fois où Marie m'en rattrape par les cheveux. Mais surtout, la seconde fois, c'est que donc j'avais entendu parler des bonnes odeurs, et bon, ben, je disais pourquoi pas. Et le jour même, ce n'est quand même pas par hasard, le jour même où, avec des prêtres du sanctuaire, nous nous réunissons dans une salle pour ouvrir le dossier de béatification avant que je fasse de nouvelles démarches à Rome, nous entrons dans une pièce et je dis aux prêtres qui étaient avec moi « mais ça sent le moisi ici ». Et les prêtres me disent « ben oui, ça sent le moisi parce que cette pièce est très humide et donc voilà, bon, ils étaient habitués à cette odeur ». Et puis on commence à travailler et au bout d'un moment, je sens un parfum très très agréable. Et je me tourne vers eux en leur disant « est-ce que vous sentez ce que je sens ?» Alors ils sont un peu surpris, ils me disent « mais non, on ne sent pas du tout, on ne sent rien, on sent toujours le moisi ». Et moi, je sentais une odeur extrêmement agréable. Donc voilà, j'ai dû leur dire « mais écoutez, je sens une très très bonne odeur ». Donc ils s'en sont réjouis pour moi, et moi, ben, je me suis dit « voilà, que à nouveau, Marie m'attrape par les cheveux en lui disant « ben tu y croyais pas, ben voilà ».
Je n'ose pas vous demander, Monseigneur, si ce phénomène a pesé dans votre décision de reconnaître les apparitions.
Bien, elle y a évidemment contribué, mais ceci ne m'a pas empêché, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de rassembler une commission et de faire un travail très sérieux à partir des manuscrits et du lot. Mais cependant, je ne pouvais pas oublier ce que j'avais moi-même vécu.
Pouvez-vous nous dire quel est actuellement le rayonnement du pèlerinage en France et même à l'étranger, me semble-t-il ?
Mais vous savez, la fréquentation du sanctuaire a augmenté depuis la reconnaissance officielle des apparitions, pour les raisons que vous évoquiez vous-même au tout début de cette interview, à savoir que le sanctuaire était assez peu connu. Moi-même, qui suis marseillais, donc qui ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à 170 km du sanctuaire, je n'avais que vaguement entendu prononcer le nom et je ne connaissais rien. Donc la reconnaissance officielle a permis à un certain nombre de personnes au-delà des frontières du diocèse et de notre pays, puisque ça a fait l'objet de plusieurs émissions de télévision un peu partout dans le monde, donc ça a été l'occasion de le faire connaître. Ensuite, il y a, bien entendu, et nous avons largement contribué, quand je dis « nous », c'est avec le groupe des prêtres qui chantent, puisque chaque fois que nous avons eu l'occasion de témoigner de ce lieu et des événements qui ont été vécus à Notre-Dame-du-Lot, nous l'avons fait, et c'est vrai que ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes aussi d'avoir le désir de découvrir le sanctuaire. Ensuite, nous avons accueilli aussi, j'ai tenu à accueillir il y a quelques années maintenant, la communauté des bénédictines de Montmartre qui contribue à la vie du sanctuaire, et puis une équipe de prêtres qui également l'anime avec beaucoup de conviction, de talent, de foi. Et je pense que l'ensemble de ce que je viens de dire fait qu'aujourd'hui, la fréquentation du sanctuaire a augmenté. Ça n'était pas le but, il ne s'agissait pas de dire ben voilà, on va faire du chiffre, on va augmenter le nombre de personnes qui fréquentent le sanctuaire, mais au contraire, de faire découvrir à ceux que le message du lot pouvait aider dans leur vie, bien de leur faire savoir que voilà, il y avait ce lieu où ils peuvent être accueillis, et il se trouve que cette année en particulier, l'année de la miséricorde, eh bien je pense que le message de Benoît rejoint tout à fait ce que le pape nous a invité à vivre au cours de cette année, puisque si on devait résumer le message du lot, c'est le refuge des pécheurs, c'est-à-dire le cœur de Marie, le cœur de Dieu qui accueille ceux qui sont confrontés aux épreuves de la vie et au mal qui vit dans chacun de nous, mais grâce à la prière, grâce à la volonté, grâce à la foi, on peut vaincre ce mal et se réfugier dans le cœur de Dieu.
Bien, Monseigneur, je vous remercie de cette très belle conclusion. Nous avions l'honneur et le plaisir de recevoir Monseigneur Jean-Michel Di Falco et Andry, évêque de Gap et d'Embrun. Grand merci encore à vous, Monseigneur.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Au revoir, Monseigneur.